celle qui consiste à commencer par la fin. J'écris ceci dans un casier à chat de Schrödinger en orbite haute autour du monde en quarantaine d'Armagast. Ce casier à chat ne ressemble pas tellement à un casier, mais plutôt à un ovoïde à coque lisse qui mesure à peine 6 mètres sur 3 et constituera la totalité de mon univers jusqu'à la fin de mes jours. À l'intérieur, c'est une cellule plutôt spartiate qui contient une boîte noire, assurant le recyclage de l'air et des déchets, une couchette, un synthétiseur de nourriture, un comptoir étroit qui me sert à la fois de table à manger et de bureau pour écrire, un évier, une douche et des toilettes, tout cela derrière une cloison en fibroplaste pour des raisons de décence qui m'échappent, car personne ne viendra jamais me rendre visite ici, et l'isolement pour cause d'intimité ressemble à une plaisanterie plutôt creuse. Je dispose d'une ardoise de texte et d'un stylet. Chaque fois que je termine une page, je l'imprime sur un micro-vélin produit par le recycleur. La lente accumulation des feuillets fins comme du papier de soie constitue le seul changement visible d'un jour à l'autre dans mon environnement. L'ampoule de gaz toxique n'est pas apparente. Elle est incorporée à la coquille statodynamique du casier à chat et reliée de telle manière au système de filtration de l'air que toute tentative d'y toucher déclencherait immédiatement la diffusion du cyanure, de même que toute tentative de briser la protection. Le détecteur de radiation, son horloge et l'élément isotopique sont également fondus dans l'énergie figée de la coquille. Je n'ai aucun moyen de savoir à quel moment le minuteur à déclenchement aléatoire va activer le détecteur, ni à quel moment le dispositif d'ouverture va laisser passer le minuscule isotope dans l'enceinte blindée. Je ne peux pas savoir quand l'isotope produira une particule. Mais je saurai que le détecteur a été activé dès l'instant où l'isotope la produira. Il y aura normalement dans l'air une odeur d'amande amère, une seconde ou deux avant que le gaz me tue. J'espère que cela ne durera pas plus d'une seconde ou deux. Techniquement, conformément à l'ancienne énigme de la physique quantique, je ne suis actuellement ni mort ni vivant. Je suis dans l'état suspendu des ondes de probabilité chevauchante, autrefois réservées à l'expérience mentale du chat de Schrödinger. Dans la mesure où la coque du casier à chat n'est rien d'autre que de l'énergie piégée prête à exploser à la moindre intrusion, personne ne viendra regarder à l'intérieur si je suis mort ou vivant. Théoriquement, personne n'est directement responsable de mon exécution, puisque les lois immuables de la théorie quantique m'accordent ma grâce ou me condamnent d'une microseconde à l'autre. Il n'y a pas d'observateur. Mais moi, je suis un observateur. Et j'attends l'effondrement de ces ondes de probabilité particulières avec un peu plus qu'un intérêt détaché. Dès l'instant où je commencerai à entendre le sifflement du gaz au cyanure, juste avant qu'il gagne mes poumons, mon cœur et mon cerveau, je saurai dans quel sens l'univers a choisi de s'orienter. Je le saurai, du moins en ce qui me concerne. Ce qui, à bien voir, est l'unique aspect de la résolution de l'univers qui intéresse vraiment la majorité d'entre nous. En attendant, je mange, je dors, j'évacue mes déchets, je respire et j'accomplis la totalité du rituel quotidien de ce qui est finalement oubliable. Chose qui me paraît tout à fait ironique dans la mesure où je ne vis plus maintenant, si vivre est le terme adéquat, que pour me souvenir et pour écrire ce dont je me souviens. Si vous lisez ces lignes, vous le faites probablement pour une mauvaise raison. Mais comme il en est de tant d'éléments qui concernent nos existences, la raison pour laquelle on accomplit une chose n'est pas toujours ce qui a le plus d'importance. C'est faire la chose qui compte. Seule la certitude immuable que j'écris ces mots et que vous êtes en train de les lire a de l'importance en dernière analyse. Par où commencer? Par elle. C'est sur elle que vous avez envie d'être documenté. Et elle est la seule personne dans ma vie à qui je désire penser par-dessus tout et plus qu'à n'importe qui d'autre. Mais il convient, Peut-être que je commence par les événements qui m'ont conduit à elle, puis ici, en passant par une grande partie de la galaxie et au-delà. Je crois que je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire ma première sentence de mort. Chapitre 2. Je m'appelle Rol Endymion. Mon prénom rime avec Paul. Je suis né sur le monde d'Hyperion en l'an 693 de notre calendrier local, ou 3099 pré-égyrien, ou encore, comme la majorité d'entre nous s'exprime à l'ère de la Pax, 247 ans après la chute. On disait de moi, lorsque je voyageais en compagnie de celles qui enseignent, que j'étais un berger. Et c'était vrai. Ou presque. Dans ma famille, on gagnait traditionnellement sa vie comme berger itinérant dans les Landes et sur les plateaux des régions les plus reculées du continent d'Aquila, où j'ai grandi et où je gardais occasionnellement les moutons étant enfant. J'ai conservé un souvenir très agréable de ces nuits douces et tranquilles sous le ciel étoilé d'Hyperion. À 16 ans, selon le calendrier d'Hyperion, j'ai quitté la maison sur un coup de tête pour m'enrôler comme soldat dans la garde nationale contrôlée par la Pax. Des 3 ans que j'y ai passés, il ne me reste que le souvenir d'un morne ennui, à l'exception désagréable des 4 mois où j'ai été envoyé sur le plateau de glace de la Griffe pour combattre les indigènes lors du soulèvement d'Ursus. Après la fin de mon engagement, j'ai travaillé comme videur, puis croupier dans l'un des casinos les plus malfamés des 9 queues, servi comme maître de péniche dans les régions supérieures du Cans durant 2 saisons des pluies, et joué le rôle d'apprenti jardinier dans le domaine du Bec sous la direction du paysagiste Avrol Hume. Mais berger devait sonner mieux aux oreilles des biographes de celles qui enseignent quand il s'agissait de dresser la liste des anciennes activités de son plus proche disciple, berger ayant d'agréables connotations bibliques. Ce n'est pas que j'ai une objection, mais dans ce récit, j'aurai le rôle d'un berger dont le troupeau comportera une seule brebis d'une importance infinie, et on ne peut pas dire que je l'ai trouvée. C'est plutôt le contraire, je l'ai perdue. À l'époque où ma vie changea définitivement et où je commence cette histoire, j'avais 27 ans. J'étais plutôt grand pour quelqu'un qui est né sur Hyperion, et rien ne me distinguait particulièrement, si ce n'est l'épaisseur des cales à mes mains et mon goût prononcé pour les idées baroques. Je travaillais alors comme guide de chasse dans les marais situés au-dessus de la baie de Toshaï, à 100 km au nord de Port-Romance. À ce stade de mon existence, j'avais appris quelques petites choses sur le sexe et énormément sur les armes. J'avais découvert, à mon corps défendant, l'emprise que peut avoir la cupidité sur les affaires des hommes et des femmes. J'avais appris à utiliser mes poings et ma modeste cervelle pour survivre. J'étais curieux d'un très grand nombre de choses et je ne me sentais en sécurité qu'à l'idée que le reste de ma vie ne recelait sans doute plus pour moi aucune surprise de taille. J'étais un imbécile. La majeure partie de ce que j'étais, en fait, cet automne-là, à 28 ans, peut être décrite de manière négative. Je n'avais jamais quitté Hyperion. Je n'avais jamais envisagé de voyager hors de la planète. J'étais entré dans des cathédrales, naturellement, même dans les régions lointaines où ma famille s'était réfugiée après le sac de la cité d'Endymion, 1 siècle plus tôt. La Pax avait étendu son influence civilisatrice, mais je n'avais jamais accepté ni le catéchisme, ni la croix. J'avais fréquenté des femmes, mais je n'avais jamais été amoureux. En dehors de l'éducation que m'avait donnée ma grand-mère, toute la culture que j'avais acquise était autodidacte et venait des livres que je dévorais passionnément. À 27 ans, je croyais tout savoir. Mais je ne savais rien. C'est ainsi qu'au début de l'automne de ma 28e année, satisfait de mon ignorance et convaincu que rien d'important ne pourrait jamais changer le cours de ma vie, je commis l'acte qui devait me valoir une sentence de mort et marquer le début de ma vraie vie. Les marais au-dessus de la baie de Toshaï sont insalubres et dangereux. Ils n'ont pas changé depuis une époque qui remonte à bien avant la chute, mais des 100aines de riches chasseurs, souvent venus d'autres mondes, y affluent chaque année pour